occupé par peu de monde. Il n'y avait pas autant de personnes qu'aujourd'hui. Ça a donné des photos extraordinaires. De même que l'événement plus triste, la mort du général. Un photographe s'était caché 48 heures avant la cérémonie à Colombey, dans le clocher de Colombey, parce que les gendarmes, il avait calculé que les gendarmes n'arriveraient que quelques heures après. Et il est resté 48 heures, il avait organisé sa vie, ses sandwichs, enfin tout, pour vivre pendant 48 heures. Et ce sont des photos qui sont entrées dans l'histoire, parce que c'est des photos extraordinaires, on voit les funérailles de haut pendant la messe. Et bon, il faut savoir aussi être un tout petit peu comme ça, sauter des barrières avec intelligence et peut-être avec panache, mais il faut passer son temps. On est toujours à la frontière de ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui se dit et ce qui se dit pas. Et moi, quand j'accompagne les photographes, je pousse toujours au maximum, parce que je me dis, si c'est pas publié dans le numéro prochain, c'est des photos qu'on archive et ça donne des livres, et puis c'est des photos pour l'histoire. Donc il faut toujours aller le plus loin possible.
Il y avait une photo aussi de François Mitterrand sur son lit mort qui avait été controversée.
Ça, c'est un sujet controversé, mais ça, je ne peux pas en parler parce que c'est trop compliqué.
Alors donc, est-ce que ces photos révèlent quelque chose de l'intimité des présidents ?
Oui, ça révèle, absolument, ça révèle quelque chose, parce qu'on a on a tenu à la spontanéité. On n'a pas fait un livre académique, c'est pas un livre justement pour l'Académie française. Et je pense que ce qui était important, c'est de révéler le caractère. Et à travers les photos, c'est comme la voix des gens, la voix, les photos, ça ne trompe pas. Évidemment, il y a des photos posées, mais dès que les photos sont pas posées, ça résume quand même bien la nature des gens.
Votre photo préférée ?
Non, mais ma photo préférée, elle est subjective.
Je vous ai posé la question pour
ça. Ma photo préférée est subjective. C'est celle de mon père qui reçoit Henri Pigozzi, qui reçoit le général de Gaulle au Salon d'Auto, parce que mon père était un Rital, un émigré italien, et à la première génération. Et c'était évidemment une grande fierté pour lui de recevoir le général sur son stand. Donc, c'est peut-être pas la photo que choisiront tous les gens qui liront ce livre, mais c'était la photo de mon cœur. Et après tout, comme c'est mon livre, partagé avec Philippe Gouillot, j'ai choisi cette photo. C'est mon luxe.
Merci Caroline Pigozzi. Donc, les photos insolites des présidents de la 5e République, c'est aux éditions Plon. Une autre vision aussi de la 5e République et de l'histoire.
Merci, vous savez que Plon a édité les mémoires du général de Gaulle, donc c'est intéressant de faire ça avec eux aujourd'hui.
Merci. Jusqu'au 2 décembre. Carole Serra, et nous allons méditer en sa compagnie avec Médite Action. Donc méditer dans l'action, une méthode complète pour se relaxer et rayonner chez le Duc. Et lorsque je vous vois, effectivement, vous êtes rayonnante, donc je suppose que ça fonctionne bien. Donc moi, Carole Serra, je me souviens de vous à la télévision, mais vous avez une autre vie.
Et oui, c'est vrai que j'ai démarré en tant que speakerine, et puis après j'ai beaucoup voyagé au Japon et je me suis intéressée aux techniques de bien-être comme la méditation, la sophrologie. Et je pratique ça maintenant au quotidien. Voilà, et j'ai la chance aussi de faire des livres pour aider les gens à méditer à domicile. Et je fais aussi des concerts de méditation en musique sur des millions de gens. Je reviens de New York, où j'ai eu la chance de performer à Carnegie Hall. Et puis au mois d'avril, je serai de nouveau sur la scène du Grand Rex. Voilà, où je relaxe le public avec de la musique en live. Et c'est vraiment exceptionnel.
Et vous intervenez aussi dans les hôpitaux auprès de...
Voilà, je suis thérapeute. Je travaille à l'hôpital Bichat, au service maternité, à la clinique de la Muette et à la maternité des Lilas. Et j'aide les femmes enceintes, notamment à accoucher en musique, à devenir beaucoup plus sereine. Je travaille aussi avec les enfants, les adolescents. Voilà, en fait, le stress, c'est l'ennemi du siècle. Et ma méthode, la Médite Action, est une méthode facile, naturelle, qui aide les gens à apprendre à déstresser au quotidien.
Alors, il y a 7 étapes.
Oui, tout à fait. Je vois que vous avez bien lu le livre. L'étape principale, c'est la respiration. Déjà, bien respirer, ça permet d'accéder à des états de détente et de bien-être. Or, peu de gens savent bien respirer. La bonne respiration se fait par le ventre, en fait. On inspire, on gonfle le ventre et on souffle. Et on relâche la fatigue, le stress. La deuxième étape, c'est apprendre à relâcher tous les muscles du corps. Car souvent, quand on est tendu, on se crispe, on se crée des tensions. Certaines personnes auront des douleurs au dos, cervicales. Voilà. Donc, en sophrologie, dans ma méthode méditation, on prend conscience de chaque partie du corps et on relâche les tensions là où elles se trouvent. Troisième étape, apprendre à relâcher le cerveau, les pensées. Ça, c'est très important. Nos pensées ont un rôle sur notre santé. comme le cerveau a horreur du vide, pour relâcher le mental, on fait ce qu'on appelle des visualisations. On pense par exemple à un paysage apaisant, à un bon souvenir. Tout ça, ça remet en route des pensées positives et ça, c'est très bénéfique pour la santé. Il y a plein de formes de visualisation. Il y a des visualisations sensorielles où on est dans des paysages au milieu de la nature, où on respire, où on écoute les oiseaux. Voilà, ça, ça fait partie de l'étape 3 et 4. Ensuite, l'étape importante, l'étape 5, c'est arriver à être en confiance avec soi-même. S'aimer, s'accepter avec ses qualités, ses défauts, mais reconnaître ses qualités. Très souvent, l'être humain n'est pas conscient des qualités. Avoir confiance en soi, ça ouvre des portes, ça aide vraiment à mieux vivre, à mieux être. C'est bénéfique pour sa santé. Ensuite, les deux dernières étapes, c'est la gratitude. Arriver à dire merci à la vie et tous les jours pour les petites choses qu'on a. On se réveille le matin, c'est déjà miraculeux d'être en vie. Le soir, on repense au beau moment de la journée. Voilà, la gratitude et la bienveillance sont vraiment, pour moi, les deux choses vraiment très importantes dans l'étape.
Ça semble simple, mais le lâcher prise, il n'est pas si évident à faire.
Oui, c'est vrai, mais ça s'apprend. C'est comme le vélo, plus on le pratique et plus on y arrive.
Alors, entre sophrologie, entre méditation, entre auto-hypnose, quelles sont les différences?
Alors, en méditation, on est assez statique, on est axé sur la respiration et on laisse passer les pensées. On ne s'attarde pas, on ne s'attache pas aux pensées. En sophrologie, c'est l'inverse. On dit que c'est trop difficile de méditer et de ne pas penser. Il y a des milliards de pensées qui passent dans notre cerveau. Donc en sophrologie, moi par exemple, j'induis des pensées. Mais ce sont des pensées positives. Et à force, mon patient va penser comme je lui indique.
Il va penser positif
dans la suggestion. Donc c'est deux techniques totalement différentes. La base, c'est la respiration, mais la pensée en sophrologie, au contraire. On pense. Et on dirige les pensées vers, je ne sais pas, quand je reçois un étudiant qui passe son bac, ben voilà, on va imaginer son épreuve. Une femme enceinte, on va imaginer l'accouchement. Mais toujours en termes de tout va bien se passer. Voilà les différences.